Bien, bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous. Quel événement merveilleux on a, hein? Merci beaucoup, Georges, et tous ceux qui ont participé à ça. C'est comme un prélude au ciel, hein? Parce qu'on va être rassemblés non seulement des quatre coins du Québec, mais du globe entier, puis à travers tous les âges aussi. Puis ceux qui nous ont précédés dans la gloire, bien, ils vont être comme on l'a vu. Bon, on l'a pas lu tantôt, là, mais ou je m'en souviens plus si on l'a touché à ça dans Thessaloniciens 4. Mais premièrement, ils vont être changés, puis ensuite, ils vont monter. Ensuite, nous, on va être changés, puis tous ensemble, on va être avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles. Je veux en profiter, je ne veux pas oublier de vous saluer de la part de maman puis papa. Là, connaît beaucoup de monde ici, là, vous vous reconnaissez, alors vous êtes tous salués chaleureusement. Moi, je suis le petit gars là, qui veut amener la partie pratique là-dedans. C'est-à-dire, ça a rapport avec quoi par rapport à moi, là, les dispensations, tu sais? On l'a déjà vu bien, je ne veux pas dire que ça n'a pas été mentionné, mais je vais essayer de vous donner un œil avec les lunettes qui sont les miennes. Tu sais, là, le Seigneur, M. Bernier disait aussi, hein, il disait... Un moment donné, il s'était fait demander par un jeune, je pense, dans la foi, ça a pris combien de temps à préparer ce message-là? Il a dit 15 minutes. Mes serviteurs, ça a pris toute une vie. Là. Alors, le Seigneur nous fit là, pour qu'on puisse amener le message, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué ça? Là? Il prend un frère, il prend l'apôtre Jean pour parler du manque d'amour, mais lui, c'est l'apôtre de l'amour. Là. Il prend l'apôtre de la connaissance pour... poser les fondements de la doctrine concernant l'Église dans Éphésiens 3. Alors, David me disait, « Kevin, toi, on va-tu se dédoubler? C'est quoi que tu as préparé? » Puis en tout cas, je me suis remis au Seigneur, tu sais, là, puis... non, on se dédouble pas. Alors, j'ai dit, « Ben moi, je vais faire un zoom dans Éphésiens, puis on va aller voir l'exemple de l'apôtre Paul, tu sais, là. » Parce que non seulement on a des principes de gestion, parce que, OK, je pense qu'on comprend tous que « oikonomia », c'est gérer quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est prendre une charge, tu sais, là. C'est être un chargé de projet, tu sais, là. Puis, ça donne que, dans la vie, moi, c'est ça que je fais, tu sais, là. Alors, tu sais, c'est exactement ça. Puis, on va essayer d'amener la vision exécutive, là, tu sais. Alors, on y va avec... oikonomia, mais dans le service de Paul. L'exemple de Paul comme économe, oikonomos, OK, parce que les noms en grec finissent comme ça, puis les verbes, ils finissent en ia, là. Alors, ce qui nous donne, si tu administres ou tu gères, t'économia, mais si tu es un économe, tu es un économos. Puis, on voit ça que dans Éphésiens 3:2, pour y retourner, on va rester dans notre thème, on va rester dans ce que Georges nous a présenté, là, pour pas qu'il vienne nous chicaner après, là. Mais non, je pense pas que t'es le même, Georges, là, c'est pas pour ça que je dis ça, là. Éphésiens 3, 2. À cause de, je vais commencer au verset 1, là, pour que la phrase fasse du sens. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part, remarquez, hein, je fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Vous voyez bien que c'est une charge. Le chargé de projet ici, c'est Paul. Okay? Puis il y a quelque chose de vrai à gérer, là. On lui a confié le fameux mystère qui n'en est plus un pour nous parce qu'il a été révélé, n'est-ce pas? Qui est celui de l'Église, l'Ecclésia. Alors, il est en train de dispenser de sa charge quand il nous écrit ici, là. Puis, il est en train de faire sa job. Puis, on voit que ça s'est pas limité à juste envoyer une lettre, puis that's it, that's all. On va voir comment Paul a, je vais dire, opérationnalisé ça là, pour que ça devienne une réalité en Asie mineure, puis de l'autre bord de la mer, là, à Corinthe aussi, en Grèce. Là. Donc, Paul est celui qui a oikonomia pour Dieu, ce mystère de l'Église. Ce fameux oikonomia, on l'a mentionné, administration en particulier, une économie. Dans le vieux français, ça s'appelait de même. On ne prenait pas toujours pour acquis que c'était juste de l'argent, là, parce que ce n'est pas juste de l'argent. dispensation, mais dispensation, c'est, on l'a dit, là, c'est devenu comme quasiment de l'eschatologie dans notre tête. C'est comme, on l'a dit, là, ce n'est pas ça, mais dans notre tête, une période qui commence là puis qui finit là. Mais non, mais je veux dire, on vient de voir là, que c'est un mode de gestion. C'est Dieu qui a parti le bal, si je peux l'expliquer comme ça. C'est lui qui a ses modes de gestion. Puis on l'a bien vu, il commence ça, puis ensuite, ben c'est pas annulé, là. Je veux dire, moi, j'ai encore une conscience aujourd'hui, puis j'ai des choix. Puis moi, j'ai une conscience, j'ai des choix à prendre. Puis toi aussi, frère. Puis toi aussi, ça, le Seigneur t'a donné des ressources, de temps, d'argent, d'énergie, de santé. La question, c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec? Voyez-vous, là, où ça nous amène, la fait d'avoir un choix, le Seigneur veut voir ce que moi, je vais faire avec, comme oikonomos, comme gestionnaire de ce que le Seigneur a remis entre mes mains. Alors, je fais des choix tous les jours. Je vais les laisser, on l'espère, on va se laisser guider par la parole de Dieu. Et donc, en particulier, je termine ma petite partie de définition, là. En particulier, la gestion, la supervision, l'administration des biens d'autrui, je pense que je dois être le cinquième à le dire, là. La fonction de gestionnaire ou de surveillant, d'intendance, d'administration, de dispensation, voilà. Dans 3.9, je le mentionne tout simplement au passage parce qu'on l'a lu, c'est la dispensation ou la gestion du mystère qui égale l'Église. Dans Éphésiens 1.10, qu'on a lu, mais je vais le relire une dernière fois avec vous, on va essayer de faire entrer le clou. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, mais il n'y a plus rien de mystérieux là-dedans, on comprend, là, les lumières sont ouvertes, là, puis là, il nous l'a fait connaître, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Maintenant, il y a une partie de ça qui est au futur, mais il y a une partie de ça qui commençait déjà quand Paul a parlé, pour le mettre à exécution. C'est-à-dire, Paul, là, quand il a écrit ça, là, il était en mode missionnaire, lui, là. Vous savez qu'il y a eu les voyages 1, 2, 3, etc., qu'il s'est promené en Asie mineure, puis il l'a mis à exécution. Il a pas resté là à tergiverser, je vais dire, là, du blabla, envoyé, puis non, je veux dire, il a fallu qu'il embarque dans les bateaux, qu'il amène une équipe missionnaire avec lui, qu'il se mette en équipe avec des Timothées, des Tite, puis qu'il aille sur le terrain pour amener l'Évangile, comme on le voit dans le livre des Actes, qui est notre livre historique qui nous raconte la trame historique. Les lettres sont ce qui remplit la trame historique. On peut dire, il a écrit ça dans ce temps-là. Pour le mettre à exécution, quand on fait des projets de construction, il peut y avoir des projets de plein d'affaires, OK? La charge de projet, ça peut être un projet informatique, ça peut être un projet financier, il y a toutes sortes de projets. Mais le projet de construction, il est palpable parce que tu l'as dans les mains, le 2x4. Tu sais, là, tu sais que là, la structure, elle s'érige, là, puis ça fait un vrai bâtiment concret. Quand on fait ça, il y a des étapes. Il y a l'étape concept. Pour moi, là, c'est le même, là. J'ai comme une espèce de petite poutine, là. Ah, le projet est à l'étape concept, est à l'étape préliminaire, est à l'étape des plans et devis définitifs. Ensuite, on va en appel d'offres. Puis ensuite, on rentre en exécution. Il faut que, on fait pas tout ça pour rien, là. Je veux dire, il y a une raison, là. On veut une vraie bâtisse. Dieu veut tellement une vraie bâtisse, là, qu'on peut même pas se douter à quel point c'est une vraie bâtisse qu'il veut, là. On la voit dans l'Apocalypse qui descend, puis qu'elle est faite avec nous autres, là. Puis elle est faite avec des pierres vivantes, cette bâtisse. Ben, c'est même pas rien qu'une bâtisse, là. C'est une ville, en fait, là. Et elle a l'air d'être en cube, là. Puis, j'ai pas de dessin à vous montrer, là, mais c'est quelque chose, semble-t-il, puis c'est qui disait ça aujourd'hui? Je veux dire, c'est toi, hein, Raymond. On ne créera pas à ça quand ça va arriver. Ouais, c'est ça. Christ est le fondement de cette construction-là. Puis, Paul a posé le fondement, puis il a amorcé la phase d'exécution, puis elle se poursuit encore aujourd'hui, parce qu'on est encore là, vous et moi. Sinon, on serait déjà parti comme on l'a vu ensemble. J'aimais ça que tu mettes 1 Timothée 1.4, Georges, j'ai trouvé ça à propos, puis on va le faire ressortir, tournons-y ensemble maintenant. Excusez-moi. Ah, je suis dans 2. Je ne reconnaissais pas mon verset, puis je me dis, voyons, c'est quoi la fin? 1 Timothée 1.4. OK, mais, ouais, ça marche mieux. je te rappelle, on est dans le contexte, hein, de tout ce foisonnement, tu sais, ça foisonne, on est dans les œuvres missionnaires. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre, la fameuse économie, la gestion de tout ce projet-là. Là on a, tu sais, je veux dire, on a des diagrammes de Gantt quand on avance les projets, là. Là, quand j'ai un os, là, mon timeline il arrête, là. Puis là, j'ai un nœud à régler, là. C'est un point critique qu'on appelle ça en gestion de projet, là. Puis là, toute la pression est sur le gestionnaire de projet, là. Parce qu'il faut trouver une solution, là, pour que le chantier reparte puis que ça l'avance, l'affaire. Puis il faut pas faire ça dans la bâtisse de l'Église non plus. Je veux dire, on l'a très bien entendu. Le Seigneur a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça y a coûté extrêmement cher. Ça a été rien de facile, même s'il est Dieu. Dans le jardin, il a sué du sang tellement qu'il était vrai homme de vrai. Puis il a goûté à toute la terreur, là, de, je sais pas comment que ça peut se conjuguer, un homme qui subit la colère éternelle de Dieu, mais ça doit être quelque chose. Il a subi ça pour vous et pour moi. Alors il mérite qu'on fasse bien ce qu'il nous demande de faire. Parce que les économos, c'est pas juste Paul, là. C'est vous et moi. On est en situation de responsabilité. On a le libre-arbitre. Puis là, c'est à nous de jouer, là. Pas nous, je veux pas dire, dans le sens qu'on a le libre-arbitre. Puis là, ce que je vais dire aujourd'hui, je vais le qualifier tout de suite. Parce que je vais vous parler de gestion de projet. Puis vous allez dire, ben, je pensais que c'était la Bible qu'on étudiait, là. Mais la gestion de projet, c'est une science comme les mathématiques, tu sais. C'est Dieu qui a inventé ça. C'est pas moi, là. Je veux dire, j'ai pas inventé le temps, puis la matière, puis les ressources, là, je veux dire, c'est lui qui a inventé ça. Les mathématiques, c'est lui qui a inventé ça aussi. Les disciples, ils ont amené 5 pains, 2 poissons, mais ils n'ont pas mangé cette chose. Le Seigneur peut faire n'importe quoi, mais nous, on est responsable de bien gérer le petit bout qu'il nous donne, là, puis de lui offrir ça au meilleur de nos facultés, là. Il faut faire avancer l'œuvre. Là, on est pas mal sur le neutre, hein? Trouvez-vous? En tout cas, je parle de généralement parlant, OK? Mais il faut faire avancer l'œuvre et non reculer. Puis surtout pas la diviser. Je veux dire, moi, si j'ai quelqu'un là, qui sépare ma bâtisse en deux, rien ne va plus, je vais l'écarter de l'équipe et il va se passer quelque chose. Là. J'ai pas besoin de lui. Là. J'ai besoin de gens qui vont collaborer pour que cette œuvre de construction-là avance. Il faut être une équipe de construction et non de démolition. La démolition, c'est toujours au début, là, quand on commence, là. Des fois, c'est comme quand ils ont refait le temple, là. Fallait qu'ils enlèvent le rubble en anglais. C'est quoi que... Les débris, tu sais, là. T'enlèves les débris, puis là, tu te mets sur le solide, là, tu recommences à construire. Puis, il utilise ses serviteurs pour le faire et nous voilà tous aujourd'hui. Puis, on va être encouragés pour aller de l'avant, comme Raymond nous l'a si bien dit. Cette église-là fait partie de lui-même. On n'ira pas, mais on voit très bien à la fin du chapitre 1 d'Éphésiens que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Même Christ, dans 1 Corinthiens 12, 12, c'est le Seigneur avec son Église. Alors, je ne dirais jamais une affaire de même de mon propre chef. C'est lui-même qui nous le dit par son esprit dans la parole. Aujourd'hui, si on parle de Christ, on parle de lui avec nous. C'est ça, Christ, maintenant. Waouh, hein? C'est quelque chose. Quel privilège! Puis on participe à la construction de ça. C'est le plus gros, le plus beau, le meilleur projet qui existe sur la Terre en ce moment. C'est rien que Donald Trump est capable de faire. C'est rien que nous, on peut faire pour le gouvernement ou quiconque ou pour une grosse industrie ici. C'est l'Église du Seigneur. Puis tout le reste, c'est comme fabriquer des temples. Puis c'est ça. On fait ça pour gagner notre croûte. Point. Mais le vrai projet... C'est celui qu'on considère aujourd'hui. Puis on est les économes de ça, vous et moi. Puis on va avoir des comptes à rendre pour comment on construit. Donc, dans Luc 16, sans y tourner parce que j'ai juste quelques minutes, on a cette parabole de l'économe. On l'appelle, tu sais, l'économe infidèle, là, vous savez. Mais lui, là, il est intelligent. Puis le Seigneur le recommande pour une chose. Parce qu'il s'en va voir tous ceux qui sont en dette avec son... Celui pour qui il a la charge d'économe. Puis il dit, tu dois tant de mesures. Barre ta dette, ou écrit beaucoup moins, là. Puis lui, il prévoit sa sortie pour avoir une job ailleurs, là, après, là. Puis le Seigneur, il dit pas d'être croche dans les affaires, mais il dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière. Comprenez-vous, c'est vous et moi, n'est-ce pas? Parce qu'ils font de la prévision pour l'avenir. Dans le ESV, là, le English Standard Version, c'est « manager ». Puis l'administration de ce manager-là, c'est « management ». On est les « project managers ». C'est ça qu'on est pour le Seigneur. Puis il fait du bâtiment durable parce qu'il pourvoit pour l'avenir. Hein? Alors, faisons du bâtiment durable, le seul bâtiment durable qui est vraiment durable éternellement. On peut construire à 3 échelles. Je bâtis ma vie avec le Seigneur. Je peux décider de ne pas la bâtir avec lui, là, on l'a bien. Ou ma famille, ou on peut bâtir collectivement l'Assemblée de Dieu. Chacun dans nos églises locales, mais c'est merveilleux que les églises locales sont rassemblées cet après-midi ensemble. Il existe, en gestion de projet, c'est ça que je vais vous montrer.
Ceci.
Je sais que vous n'êtes pas venu ici faire une maîtrise en gestion de projet, là, mais ça peut être utile pour tout le monde, même dans votre vie personnelle, mais surtout pour le Seigneur. Tout projet a 3 variables de base. La qualité de ce que tu construis, le coût de ce que tu construis et le temps que tu mets. Ça fait qu'un gestionnaire de projet s'agence toujours avec ces 3 variables-là. Quand il y a un os dans un des coins du triangle, faut que tu le déprennes puis vite. Ça s'appelle « trouve une solution ». C'est le triangle, on peut dire qualité, coût, délai. Là. Moi, j'aime mieux QCT, qualité, coût, temps. Parce que c'est dur gérer le temps. C'est la chose la moins palpable. Hein? Mais je dis toujours au monde avec qui je gère, le temps, si t'en as pas, t'as pas plus de bâtisse. C'est comme un 2x4. Si t'en as pas, il n'y a pas de bâtisse. Faut gérer le temps intelligemment. Ce triangle-là, c'est un outil fondamental de gestion de projet qui illustre l'interdépendance entre les 3 contraintes. Toute modification de l'une impacte au moins 2 des autres. Il est impossible d'optimiser les 3 en même temps. Ça peut pas être rapide, pas cher, puis de haute qualité, one shot, ça n'existe pas. Là, il y a des gens en informatique qui sont en train de questionner même ça, parce qu'on a des outils super puissants, mais j'y crois pas. Puis on a tous des choses à gérer. Excusez-moi, mais j'ai perdu mes notes, ce sera pas long. J'ai pas pesé à la bonne place. Donc, voyons, arrête de me faire ça. Excusez-moi. On va y aller demain. Ouais. Bon, ça fait qu'on a tous des choses à gérer, ça je l'ai bien dit. Il y a 3 types d'équilibre fréquent. Rapide puis pas cher, la qualité dégrade. OK, vous comprenez le principe. Rapide puis bonne qualité, le coût va être élevé. Bonne qualité puis pas cher, le délai va être long. La qualité prend du temps. Puis, donc, à cause de mes lunettes, là, de ce que le Seigneur a fait avec moi, je vois ça partout dans la Bible. T'sais, on le voit dans... Le Seigneur, il parle d'une tour, là, mais la personne qui est en train de la faire, il a pas compté ses affaires comme il faut, puis il est même pas capable de l'achever, puis il a la risée de tout le monde, là. Il y a des exemples comme ça qui sortent, qui pop un peu partout dans les Écritures. Il y a la parabole des 10 mines. Il y a la sagesse que le Seigneur a donnée à Joseph, là, en gestion de crise, là. Il était un oikonomos, là, dans ce temps-là. Fait que, mais là, je veux voir comment l'apôtre Paul, surtout, a appliqué ça. Alors, la qualité, je vais juste vous citer quelques versets. L'apôtre Paul dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, on est dans Éphésiens 5, 27, vous reconnaîtrez le texte. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible ou irréprochable. L'apôtre Paul voulait présenter une église nickel devant le Seigneur. Mais il travaillait pour ça, là. Il dit aussi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est quoi notre motif de cœur? Dans notre charge que Dieu nous a confiée. Est-ce que ce sont les mêmes, ces motifs purs-là que Paul avait sincèrement pour présenter une église dans cet état-là au Seigneur? Ou est-ce que c'est « je vais oser dire, mon ministère, mon tout précieux, sacro-saint ministère, là, intouchable. Est-ce qu'il est en compétition avec quelqu'un d'autre là, dans l'Église? Là? Est-ce que je veux le protéger ou est-ce que je veux me donner là, pour que vraiment, là, en m'alliant avec toutes les dons qui sont dans l'Église, là, je veux présenter ça au Seigneur pour que ça puisse être utile pour lui. Ça devrait être la même motivation, la nôtre, que celle de l'apôtre Paul. C'est la même Église qu'on construit, puis il n'y a rien qu'à changer. Puis on est encore dans le même mode de gestion. Il n'a pas disparu, j'ai vraiment apprécié. Il continue, tu sais, là. On devrait avoir les mêmes motifs purs que Paul. Le coût ou le budget, ça peut être le budget, mais le coût, là, ça peut être un coût en ressources humaines, là. Ça peut être du monde, des personnes, là. Paul, il dit dans 2 Corinthiens 12, 15, « Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, dussé-je en vous aimant, davantage être moins aimé de vous. » Avez-vous déjà goûté à ça? Parce que oui, hein? On en a pas mal ces temps-ci, là. On va dire de la bouette comme ça. Ça coûte cher servir le Seigneur. Mais, tu sais, je pense à 1 Corinthiens 15, 58, soyez fermes. Soyez fermes, frères, sœurs, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mais oui, ça coûte cher. Oui, on est fatigué des fois. Des fois, on travaille jusqu'aux petites heures de la nuit, là, à préparer de quoi pour que ça ait du sens puis que ça soit vraiment ce qui vient du Seigneur. Mais il faut travailler pour creuser la parole de Dieu. Ça coûte cher en temps, en énergie, en dollars aussi, parce que notre fabrication de tente, ensuite, on la traduit en fabrication d'église, n'est-ce pas? De toutes les façons possibles, que ce soit à distribuer de la parole, à introduire des nouvelles personnes par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui sauve, là, je ne remets pas ça en question, là. Mais travailler au outreach, là, à l'évangélisation, et ensuite à consolider les saints. Et je finis avec le délai. Ça représente la durée sur le calendrier, bien entendu, mais la parole de Dieu nous parle de racheter le temps, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 5, 16, Colossiens 4, 5, j'irai pas, j'ai déjà dépassé mon temps alors. Mais j'aimerais ça faire sortir l'exemple de Paul, qui enseigne pendant 2 ans à tous les jours, nous dit Actes, le livre des Actes, OK? Dans la fameuse école d'un certain Tyrannus, là. Puis on apprend dans Actes 20 que Paul a enseigné un total de 3 ans à Éphèse, jour et nuit. Imaginez, là. Puis là, nous, on enseigne 40 minutes par dimanche, mettons. Puis là, on fait le calcul, puis on dit... Comment se fait que mon Gantt, il avance pas? Un Gantt, c'est un échéancier dynamique là, de construction. Ils sont pas nourris comme... Je veux dire, juste en temps, c'est impossible pour nous d'arriver. Là, je veux dire, ça prend du temps pour que des bébés reçoivent la parole puis qu'ils grandissent, pour nourrir des gens qui sont plus chevronnés, mais les amener plus loin, ça prend du temps. Parce que présenter cette église-là, nickel, comme on l'a dit tantôt, je vous l'ai montré, hein? Tu peux pas faire de la qualité puis faire ça là, rapidos comme on construit aujourd'hui, là. Ça va pas ensemble. Ça prend du temps. C'est ça que Paul a fait à partir d'Éphèse. Il est allé se poster à Éphèse. Puis là, il a enseigné pendant 3 ans. Puis les gens de Colosse, parce qu'Éphèse, c'était un centre commercial important sur le bord de l'eau. Puis là, les gens de Colosse, de Thyatire, de Laodicée, toutes les églises qu'on voit dans les Écritures, Pergame, Thyatire, etc., nos chers, la petite église qu'on affectionne tous là, de Philadelphie. C'est où que ça a commencé, cette histoire-là? Éphèse. Il n'a pas juste enseigné aux Éphésiens, là. Ça a parti un feu de poudre pour l'Asie mineure. Puis même ça, ensuite, il est allé se déporter à Corinthe, etc. Alors, la conclusion, je pense que j'ai déjà dit ma conclusion. Le plus grand, le plus important projet dans lequel on puisse être impliqué en ce moment, c'est de bâtir l'Église de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.